Sud Radio 10h midi, débat.
Et bienvenue si vous nous rejoignez jusqu'à midi. Vous nous appelez Sud Radio, parlons vrai, 0826 300 300. C'est l'heure du débat avec aujourd'hui autour de la table. En visio, Laurence Taillade. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Présidente du parti, Républicain Solidariste et auteur de Être une femme en 2020 aux éditions Michelon. On est avec également Xavier Iacovelli. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, sénateur de la République en marge des Hauts-de-Seine, secrétaire général des territoires, de Territoires et Progrès. Mathieu Chêne aussi qui est avec nous aujourd'hui en ce vendredi 13. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Directeur associé BVA Pôle Conseil, cofondateur d'Élite d'Opinion et auteur de La France en face, ce que disent les Français à leurs élites, déconnecté aux éditions du Rocher. Et va nous rejoindre Georges Kuzmanovic, aussi président de République Souveraine. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses encore dans l'actualité pour ce vendredi 13. On va commencer dans un instant avec vos coups de cœur et vos coups de gueule de la journée. On va parler bien sûr des annonces faites ou des non-annonces faites hier par Jean Castex, le Premier ministre, avec un Noël tous confinés. Est-ce qu'on est prêt à cela? Est-ce surtout la bonne décision? Est-ce que c'est effectivement quelque chose qui risque d'arriver? On parlera également avec vous et auditeurs, vous avez bien évidemment la parole, avec ces décisions qui sont prises lors de conseils de défense. Mais que s'y dit-il? Pourquoi un conseil de défense prend-il la main au détriment du débat parlementaire? Est-ce que ce sont des décisions beaucoup trop opaques? Et puis, le 13 novembre, on se souvient tous forcément de ce que l'on faisait il y a exactement 5 quand, à partir de 21h à Paris, démarrait donc une série d'attaques terroristes. Est-ce que cette menace terroriste est désormais sans fin? C'est la question. Et puis, on évoquera le documentaire polémique du moment. Et ça s'appelle Hold Up. C'est sorti sur Internet. Est-ce que c'est une porte ouverte au complotisme généralisé? Là aussi, on a très envie de vous entendre au 0826 300 300. Mais on va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actu. Alors, honneur à vous, chère Laurence, votre coup de gueule sur la représentation française à l'ONU qui utilise une femme voilée comme modèle dans ses communications officielles. C'est-à-dire, racontez-nous.
Alors, moi, mon coup de gueule, c'est plus, enfin, effectivement, il est orienté contre le séparatisme, enfin, prétendue lutte contre le séparatisme du gouvernement et en même temps, ce discours dure en même temps, puisque on se rend compte dans les communications officielles, donc de la représentation officielle de la France à l'ONU, que toute occasion est utilisée pour utiliser l'image d'une femme voilée. Alors, ça s'est reproduit à deux reprises ces derniers temps. Donc, le 11 octobre dernier, c'était la journée des défenses des droits des filles. Et on a une toute jeune fille qui est représentée voilée pour défendre le droit des femmes. Ensuite, le 10 novembre dernier, donc c'était il n'y a pas très très longtemps, j'ai interpellé Marlène Schiappa et Elisabeth Moreno sur le fait que c'était la journée mondiale de la science et qu'une fois de plus, on avait une femme voilée qui représentait la femme française à l'ONU. Je trouve que c'est un vrai problème parce que ça veut dire que la France, à travers ce type d'image qu'elle véhicule, non seulement banalise un symbole qui est le symbole de l'apartheid sexiste entre les hommes et les femmes, puisque dans les pays où le voile est imposé, je pense notamment à l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est un symbole qui est accompagné d'un statut de mineur pour les femmes. Donc c'est un vrai problème parce que la France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est aussi le pays qui doit véhiculer des principes universalistes et à travers ce type de communication, eh bien elle ne fait plus son travail, au contraire, elle véhicule une image totalement antinomique. Pire, c'est que je me rends compte, j'habite moi dans des contrées très éloignées, très enclavées, j'habite près d'Aurillac et je fais mes courses à Aurillac. Et cette semaine, qu'est-ce que j'ai croisé à Aurillac? Des femmes en burqa. Dès lors que la burqa arrive dans des contrées aussi éloignées des grandes banlieues, dès lors que cette burqa, on la laisse rentrer dans des supermarchés, qu'on laisse des femmes en burqa circuler dans nos centres-villes, on ne peut pas dire que la lutte contre le séparatisme est effective. Donc moi, j'ai un vrai coup de gueule à pousser par rapport à tout ça, notamment quand j'entends M. Le Drian, encore ce matin en interview chez M. Bourdin, nous dire qu'il y a une vraie lutte contre l'intégrité islamique et en même temps sur notre territoire, avoir des femmes qui se promènent en burqa alors qu'on sait, mais on sait que cette burqa, que souvent le voile, sont une manière de porter un étendard et de pouvoir se compter sur notre territoire. Donc je pense qu'à un moment, il va falloir que le gouvernement fasse un choix sur ses modes de communication, les maîtrise un peu mieux et que de l'autre côté, on applique enfin la loi sur la burqa qui a été votée il y a 10 ans.
Quelqu'un veut commenter ou apporter une précision à ce que vient de dire Laurence?
Écoutez, ces matériels de BVA, on retrouve ici véritablement la zone de clivage qui est très forte, c'est-à-dire des Français qui, aujourd'hui, notamment sur la question de la burqa, sont sans concession, hein, ouais. Et le sentiment que de l'autre côté, il y a un gouvernement qui n'est plus en capacité de faire appliquer la loi. Et donc, je pense que c'est là où se retrouve véritablement le risque, et je parle d'un risque politique, hein, et d'un risque même pour l'unité du pays, c'est lorsque les discours, et les discours qui sont forts, hein, d'Emmanuel Macron sur le séparatisme, ne semblent pas suivis d'actes sur le terrain, avec deux conséquences possibles, soit le sentiment d'un double discours, d'un en même temps qui finalement aboutirait à la perte, soit un deuxième risque, c'est le sentiment par les Français que le gouvernement et Emmanuel Macron n'auraient pas pris la mesure du risque de séparatisme qui aujourd'hui obsède, il faut bien le dire, obsède les Français.
Alors, c'est un sujet qu'on abordera effectivement plus en profondeur sous l'angle des attentats, puisque en ce 13 novembre, on va revenir, hein, sur la question de la lutte aussi contre le terrorisme. On salue Georges Kuzmanovic qui nous a rejoint. Bonjour Georges, président de République Souveraine. Et bah tenez, puisque vous êtes là, on enchaîne avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Georges, vous vouliez tout simplement dénoncer ce que la direction de Bridgestone là, qui a confirmé hier donc la fermeture de son site dans le nord de la France. Donc on rappelle, hein, 863 salariés qui aujourd'hui voient leur emploi disparaître si rien n'est fait.
Eh bien oui, encore une entreprise qui va fermer. Donc, comme vous l'avez dit, dans la ville de Béthune, 863 employés, mais ce n'est pas seulement 863 employés. Il faut multiplier par deux, comme à chaque fois quand on perd des emplois industriels. Donc c'est 1700 autres emplois qui vont être atteints, parce que quand les gens n'ont pas leur salaire, ben, ils peuvent moins acheter. Et donc, les commerces qui sont déjà mis à rude épreuve ne peuvent pas tourner. Ouais. Pour ceux qui connaissent Béthune, la ville sera ravagée, parce que c'est derrière, il n'y aura rien pour récupérer. Et ce qui est insupportable, c'est qu'on a une litanie, c'est tout le temps, c'est toutes les semaines. Plusieurs fois ici, j'étais intervenu au moment de Photonis, de la Técoère, de Chapelle d'Herblay, qui a fermé très récemment en Haute-Normandie. C'était la dernière et la seule usine française de recyclement du papier. On n'a pas besoin de papier recyclé. Eh bien non, parce que comme elle appartenait à une entreprise internationale et que l'impuissance politique a été organisée depuis des décennies, notre gouvernement ne peut rien faire. Monsieur Bruno Le Maire peut venir demander, supplier, comme il l'a fait au MEDEF, mais ça ne change rien. Les dispositions internationales, les traités européens et les traités de libre-échange sont faits de telle manière que de toute façon, ce sera fermé. Et on le voit à la Béthune avec des gens qui sont dégoûtés, déçus. Et ils savent très bien. En plus, c'est la crise. On a 2 millions de gens qui vont arriver. Ils n'auront pas de boulot derrière. Et là, je pense que ça suffit. Il faut qu'il y ait des pouvoirs en place qui aient le courage de défendre nos industries.
Alors, est-ce que dans cette histoire-là, vous pensez qu'on va arriver à récupérer, c'est ce qui est annoncé, en tous les cas, que les aides publiques vont être remboursées, puisque Bridgestone a bénéficié d'aides publiques pour développer, enfin, en tous les cas, pour développer, non, puisque effectivement, c'est le manque d'investissement qui fait qu'elle part en Pologne aujourd'hui, mais est-ce qu'on est capable de récupérer ces aides publiques? Il y a peu d'exemples, hein, aujourd'hui, en France, de récupération. En Hongrie, pardon, effectivement.
Xavier? Mais juste intéressant sur Ford. Par exemple, Ford.
Blanquefort.
Monsieur Bruno Le Maire, si je me souviens bien, avait fait le matamor. Il a dit oui, nous récupérerons bien évidemment les investissements publics. Récupérer ? Non. Car de quel levier légal dispose-t-il pour les récupérer ? Aucun. Donc, on a un pouvoir qui s'est lié les mains. Ils ne peuvent plus que faire des claquettes.
Après, est-ce qu'on peut effectivement faire quelque chose contre un industriel qui décide d'aller ailleurs, là où le coût du travail est inférieur au nôtre ?
Ben, visiblement, on ne peut pas. Et c'est pour ça qu'il faut un changement, car sinon, il n'y aura plus jamais d'industrie. Comme les frontières, il n'y a aucun protectionnisme intra-européen. Bien évidemment que dans des pays comme l'Ukraine, où le salaire moyen est à 200 euros par mois, c'est évident qu'on ne peut pas s'aligner. Donc, c'est quoi la conséquence ? Parce qu'on s'est mis des règles absurdes, on va avoir un pays où il n'y aura que des chômeurs. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, à un moment donné, il faut changer les règles. Ça ne peut plus fonctionner de cette manière-là. Et donc, il faut sa protectionnisme ouais. intelligent.
Alors, on va voir ce qui va se passer du côté de Béthune, parce qu'il y a quatre repreneurs hein, qui sont en lice. Donc, on va voir lesquels et lequel tiendra la corde. Laurent, ce que je vous propose, parce que on me dit que l'heure tourne, on va faire les infos de 11h. Et on continue ce débat, on continuera et on fera aussi les coups de cœur et les coups de gueule également de Mathieu, également de Xavier aussi, puisque on est ensemble jusqu'à 11h. Et puis, on ouvrira notre débat sur les annonces du Premier ministre faites hier soir avec donc... aucun changement dans les règles aujourd'hui jusqu'au 1er décembre. On ne va pas relâcher l'effort tout de suite, a prévenu Jean Castex hier soir. Ça veut dire quoi? On en parle avec vous aussi au 0826 300 300. S'arrête un instant, les infos, et on se retrouve juste après.
Sud Radio 10h midi, débat.
Et on va revenir tout à l'heure à midi avec le journal, mais pour l'instant on continue donc avec nos coups de cœur et nos coups de gueule de l'actu, et vous continuez aussi de réagir sur les réseaux sociaux au 0826 300 300, vous le savez, Sud Radio, parlons vrai. On va évoquer avec nos débatteurs du jour, Laurence Taillade, Xavier Iacovelli, Mathieu Chaigne et Georges Kuzmanovic. On va évoquer donc les annonces du Premier ministre, cette question, est-ce qu'on va être confiné jusqu'à Noël, est-ce que vous êtes prêts, est-ce la bonne décision, ce conseil de défense qui prend toutes ces décisions aujourd'hui, des décisions qui ne serait-elle trop opaque? On va poser la question également et on va en débattre. Et puis on reviendra aussi sur le 5e anniversaire des attaques terroristes, des attaques de Paris, 13 novembre 2015. Une menace terroriste sans fin, on s'interroge aussi. Et également, on vous attend sur la diffusion et la polémique autour de ce film documentaire, ce film tout court, Hold Up. Est-ce que c'est la porte ouverte au complotisme? Là aussi, on veut entendre votre avis, 0826 300 300. On va continuer dans un instant avec les coups de gueule, les coups de cœur de nos débatteurs aujourd'hui. On en était au dossier Bridgestone avec le coup de gueule de Georges Kuzmanovic qui dénonce effectivement cette fermeture, et on aura la réaction des autres débatteurs. À tout de suite. Non.
Sud Radio 10h midi, débat.
Le débat continue, et avec vous, chers auditeurs, 0826 300 300 également sur les réseaux sociaux, avec nous aujourd'hui Laurence Taillade, Xavier Iacovelli, Mathieu Chaigne et Georges Kuzmanovic. Alors Laurence, vous vouliez réagir au coup de gueule de Georges sur la fermeture de Bridgestone, avec cette question qu'on était en train de développer, en tous les cas sur la fermeture de l'usine, avec 863 salariés qui aujourd'hui se demandent effectivement de quoi sera fait demain pour eux. Et la question, c'était les aides qui avaient été perçues par le fabricant de pneus. Est-ce que c'est l'État ou en tous les cas les autorités publiques sont capables de les récupérer, et qu'est-ce qu'on peut faire contre ces fermetures d'usines? Vous vouliez réagir, Laurence?
Oui, réagir, parce que effectivement, ça serait naïf de penser qu'on va pouvoir récupérer ces aides, puisque quand on prend un exemple comme par exemple le CICE, qui est un dispositif qui permet de défiscaliser en cas d'embauche, on se rend compte très rapidement en lisant le texte d'application que ce sont des projets qui ne prévoient ni sanctions, ni contrôle, ni conditions d'attribution. Donc à un moment, il est difficile pour l'État de revenir en arrière et de demander justement des remboursements sur des dispositifs qui ne prévoient pas ça depuis le départ. Et effectivement, le problème vient plutôt de l'Europe, qui organise la compétition en interne des différents pays avec des normes fiscales et sociales qui sont très différenciées. Donc ce qui serait important aujourd'hui, c'est de rappeler que l'Europe n'est pas finie, que l'Europe, elle doit être aussi politique, elle doit être sociale, elle doit être fiscale, et que c'est vers là que l'on doit aller, contrairement à ce que beaucoup pourraient prétendre aujourd'hui, qui disent qu'il faut sortir de l'Europe, ce qui est quand même assez paradoxal, qui disent que il faudrait rompre tous les accords. Moi, je pense qu'au contraire, il faut aller vers beaucoup plus d'Europe pour pouvoir avoir une force de frappe qui nous permette de nous opposer aussi à une mondialisation qui est très dangereuse pour la France si elle devait se trouver seule face à la Chine ou aux États-Unis.
On va continuer à débattre. Alors on est passé de coups de gueule à des coups de cœur. On va avec vous, Mathieu Chaigne. Vous vouliez parler du taux de reproduction. Alors on va parler du virus. On rentre dans l'histoire du Covid. Le taux de reproduction, ça veut dire que les Français ont été des bons élèves finalement. Le taux de reproduction du virus a baissé. Donc chapeau.
Exactement, c'est une bonne nouvelle et je pense que les bonnes nouvelles, il faut aussi
on les prend, je suis d'accord.
Parler, les prendre. Le taux de reproduction est passé en dessous de 1, il serait entre 0,8 et 0,9 selon Jean Castex. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne contaminée, on contamine aujourd'hui moins de 1. Ça veut dire également que du coup, la pandémie, l'épidémie est en voie d'extinction. Nous étions à environ 1,3.
Le mot était un peu fort.
Un gros mot, peut-être. Étant...
Alors que sur le long terme, que ça veut dire que la pente est positive. Ça ne veut certainement pas dire qu'il faut relâcher la pression, mais les différents épidémiologistes estimaient que nous étions environ un R autour de 3. C'est un coup de cœur parce que ça veut dire que derrière ce chiffre, il y a nos gestes barrières. Ça veut dire qu'il y a les masques que l'on met, même si quelquefois ils nous insupportent. Ça veut dire qu'il y a le gel hydroalcoolique qu'on a appliqué. Ça veut dire qu'il y a le confinement qui a payé. Ça veut dire que ce sont aussi des centaines, des millions de victoires contre nous-mêmes à chaque fois qu'on résiste à la tentation de sortir et qu'on résiste aux petits contournements que l'on veut faire. Et donc, tous ces gestes anonymes, tous ces petits renoncements, tous ces grands sacrifices, ils ont payé. Et je pense qu'il faut aujourd'hui faire chapeau bas pour les Français qui, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré le fait qu'on dise que les Français ne respectent pas le confinement, l'ont fait, ils l'ont démontré. Nous sommes en passe collectivement de reprendre le contrôle sur le virus. Ça ne veut pas dire qu'il faut relâcher la pression, mais ça veut dire que nous avons la capacité de nous battre collectivement. Et je pense que la France démontre aujourd'hui qu'elle est plus solidaire que ce que l'on entend régulièrement. Ce R, c'est pas un R de la victoire, mais c'est un immense encouragement. Voilà. Et donc, bravo à tous les Français qui ont.
Donc, la méthodologie est la bonne.
En tout cas, ça fonctionne. C'est-à-dire que hier, le professeur Flao expliquait que nous étions en train de reprendre le contrôle sur l'épidémie. Donc, nos efforts payent.
Voilà. Quelqu'un veut commenter ce R0?
Oui. Je suis d'accord sur le fait effectivement que aujourd'hui les efforts faits par les Français et demandés par les Français depuis maintenant plusieurs semaines, voire quelques mois maintenant, commencent effectivement à payer. Après, ça reste quand même plutôt une stabilisation plutôt qu'une vraie baisse importante. Donc, moi, j'appelle quand même à la prudence. Effectivement, c'est le résultat à la fois du confinement, à la fois du couvre-feu, des gestes barrières qui sont maintenant bien intégrés dans notre mode de vie. Mais pour l'instant, la pression sur les hôpitaux n'a pas encore baissé. Et donc ça, c'est pour ça aussi, ça a justifié, on va dire, le maintien aujourd'hui d'un confinement qui, contrairement aux détracteurs, n'est pas un confinement Canada Dry, mais qui est un vrai confinement malgré tout, avec une volonté de limiter la circulation. On voit vraiment une diminution dans les transports en commun de cette présence, une augmentation du télétravail, et donc tout ça, ça fait circuler beaucoup moins le virus, et c'est ce qui explique effectivement ce R qui est en dessous de 1 aujourd'hui.
Alors, puisque vous avez la parole... Qui voulait?
Oui, juste modulo le fait qu'il y ait un problème de remontée des données sur les...
Alors, ce n'est pas un problème de remontée des données, c'est un problème de logiciel. Voilà.
Oui, mais c'est donc un problème de remontée des données. Donc,
Ce n'est pas des données qui ne sont pas données, c'est que le traitement derrière, effectivement, bug, elles auront... Et on ne fait pas de rétention de chiffres derrière.
Ce n'est pas ce que je sous-entendais. C'est-à-dire que, voilà, il y a malheureusement un peu plus de Français qui ont été contaminés, de Français qui sont atteints ou qui en meurent que les chiffres officiels qu'on a eus hier. Donc effectivement, restez prudent malgré cette.
C'est pas gagné.
Ce qu'a dit Mathieu, qui est une très bonne chose.
Bon, Xavier, on termine avec votre coup de cœur et avec cette note sur le congé paternité. Dites-nous tout.
Oui, alors à la fois c'est un coup de cœur sur le congé de paternité et un coup de gueule contre la droite sénatoriale qui veut supprimer le côté obligatoire des 7 jours. Donc je vous rappelle, ce congé paternité, aujourd'hui nous avons 3 jours obligatoires, 11 jours facultatifs qui sont malheureusement souvent pris par des personnels dits protégés, souvent des salariés du public qui utilisent ce congé paternité. Là, le gouvernement a effectivement décidé de passer de 3 jours obligatoires à 7 jours obligatoires et de 14 jours en tout de congé paternité à 28.
Le rapport Cyrulnik, qui était sur les 1000 premiers jours de l'enfant, recommandait beaucoup plus de congés paternité, et notamment parce que le lien avec l'enfant se crée dans la première année, et souvent il se crée avec la mère et pas avec le deuxième parent, en tout cas beaucoup moins avec le deuxième parent, puisque il a moins de contacts, en tout cas dans les premières semaines. Donc moi je trouve que c'est une vraie avancée pour les familles avec un S, puisque, encore une fois, moi je suis plutôt pour le congé parentalité plutôt que le congé paternité pour définir, on va dire, le pluralisme des familles aujourd'hui. Mais c'est aussi une vraie avancée pour l'égalité femmes-hommes. Et je pense sincèrement que, par exemple, une femme, quand elle est en congé maternité, c'est elle qui fait les démarches administratives dans les premières semaines et les premiers jours suite à la naissance, hormis la déclaration en mairie qui est souvent faite par le deuxième parent ou par le père. Mais toutes les démarches administratives, l'inscription à la CAF, les inscriptions sur la sécurité sociale, tout ça, si vous voulez, ça conditionne la vie des 18 prochaines années ensuite de l'enfant. Et donc, ça conditionne également le temps que la mère prendra sur son temps personnel pour l'enfant et qui ne sera pas partagé avec le deuxième parent. Puisque du coup, comme l'enfant sera inscrit sur la carte vitale, ça sera souvent la mère qui emmène chez le médecin, souvent la mère qui fait les démarches. Et donc, je trouve au contraire que permettre au père d'avoir ces 7 jours pour faire ces démarches administratives en lien avec la mère, ça permet aussi une plus grande égalité entre les deux parents. Et donc moi, je trouve que c'est pour le coup un coup de cœur sur ça et un coup de gueule contre la droite sénatoriale qui veut supprimer cette obligation des 7 jours. Et je suis assez choqué aujourd'hui du discours et on va en parler ce soir d'ailleurs dans l'hémicycle.
Merci beaucoup. Alors, qui veut réagir à ça, Laurence, rapidement, parce qu'après on va ouvrir le débat sur Noël.
Effectivement, la droite sénatoriale, moi aussi, totalement scandalisée, puisqu'on se rend compte que l'amendement qu'ils ont déposé justement pour limiter et réduire,
C'est pour défendre les entreprises et les PME notamment.
Pour défendre les entreprises et les PME. Sauf que quand on est en congé maternité, les entreprises et les PME sont bien obligées d'appliquer le congé maternité. Donc en fait, c'est une manière de démontrer que finalement, le travail des hommes est plus important que le travail des femmes, qu'il est plus important que les hommes soient au travail et que les femmes soient réduites à leur rôle de mère. Et je pense que c'est reproduire un système qui considère que finalement le rôle de la femme est au foyer, celui de l'homme est au travail. Donc je ne sais pas si ça a été l'état d'esprit des sénateurs qui ont porté ce projet, qui l'ont signé. En l'occurrence, moi j'ai un des sénateurs dans le Cantal qui l'a signé et j'en suis absolument ravagée.
Les sénateurs de droite devraient se moderniser parce que il y a des entreprises françaises, de très grandes entreprises françaises, où
surtout que le MEDEF n'a pas demandé l'abrogation de
19 jours supplémentaires.
Surtout que le MEDEF n'avait pas demandé, ni les petites et moyennes entreprises n'avaient pas demandé à ce qu'on retouche cette question du congé paternité. C'était pas dans les revendications. Je suis désolée, on va refermer ce sujet-là, mais je voudrais qu'on parle vraiment de ce Noël. Enfin, en tous les cas, des annonces de Jean Castex hier soir. Donc, je rappelle. Maintien, changer des règles du confinement au moins pour les 15 prochains jours. On va pas être irresponsable et lever et même alléger le dispositif. C'est ce que nous a dit le Premier ministre. Je rappelle aussi que le pic des contaminations est attendu. Le pic en fait du mois d'avril a été franchi avec à ce jour plus de 32 000 hospitalisations. Alors est-ce que ça veut dire, et on a entendu aussi la petite musique à Noël et au Nouvel An, on ne pourra pas faire ce que l'on veut. Les uns les autres, est-ce que vous trouvez logique d'ores et déjà d'alerter les Français sur des fêtes de fin d'année qui ne seront pas des fêtes ordinaires finalement. Qui veut démarrer?
Oui, moi je veux bien démarrer. Moi je pense Mathieu. Effectivement que c'est aussi... Non, c'est Xavier?
Non, c'est Xavier, pardon.
Allez-y, Xavier. Je trouve que c'est effectivement logique et plutôt sain que le Premier ministre ait un discours de vérité avec les Français. On a reproché peut-être au gouvernement dans le début de cette crise de ne pas forcément en toute transparence ce qui se passait dans le pays et avec cette crise, parce que je pense que notamment il n'était pas forcément au courant de tout et qu'il naviguait à vue comme dans un certain nombre de gouvernements et de pays européens et mondiaux. Mais aujourd'hui, effectivement, on sait qu'on a besoin de restreindre cette circulation, de limiter cette circulation, et ça passe par des gestes renforcés. Et personne ne peut s'imaginer, aucun Français ne peut s'imaginer aujourd'hui qu'on pourra faire cette grande fête de Noël avec 20, 30 personnes de la famille à table, parce que on est dans une situation particulière. Et si on n'a pas envie d'être reconfiné à partir de janvier, il faudra effectivement qu'on soit collectivement responsable. Aujourd'hui, il y a une volonté du gouvernement de pouvoir déconfiner une partie des commerces à partir du 1er décembre, si l'évolution est plutôt positive, comme c'est le cas actuellement. Donc, ce frémissement se transforme plutôt en baisse aujourd'hui des hospitalisations, et avoir un Noël qui soit un Noël prudent, mais un Noël quand même qui soit déconfiné. Donc, je pense que c'est plutôt pédagogique, c'est plutôt intéressant de voir le changement aussi de ton du Premier ministre. Mais il faut quand même rappeler, à la fin de cette émission, on aura passé une heure ensemble, il y aura 15 morts. On a aujourd'hui un décès sur quatre qui est lié au Covid. On a 42 000 personnes qui sont décédées de ce virus. Donc, on aura l'occasion certainement d'en parler sur le sujet des complotistes de Hold Up. Mais aujourd'hui, c'est une réalité qui touche toutes les familles. Et j'espère que vous n'avez pas été touché. Moi, j'ai été touché dans ma famille et je peux vous dire que ce n'est pas du fake.
Qui veut commenter ça, cette décision hein, qui...
ouais. Pour Mathieu. Rebondir sur ce que dit Xavier, je pense que tout l'enjeu, c'est l'enjeu d'anticipation. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Français sont conscients quand on les interroge sur le fait que Noël ne sera pas normal, que ce ne sera pas un Noël normal. Il y a quasiment un Français sur deux d'ailleurs qui est prêt dans les enquêtes à renoncer à Noël. Le point, ça va être de se dire comment organiser Noël en évitant que Noël soit la porte du troisième confinement en janvier-février. Et donc, et je pense que c'est un défi pour le gouvernement, ça va être d'expliquer aux Français à quelles conditions on peut fêter Noël cette année. L'année 2020, le Noël 2020, et on espère que ce sera le dernier, doit être un Noël à part, une parenthèse, mais un Noël créatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un Noël qui doit se penser peut-être sur plusieurs jours pour éviter le brassage. Peut-être que c'est un Noël qui doit éviter, comme le dit Xavier, qu'on se retrouve à 20 autour d'une dinde avec oncle Bernard qui postillonne sur la dinde et qui contamine tout le monde. Bref, ça veut dire que concrètement, il faut
on embrasse oncle Bernard.
Le micro-détail, ça va être de se dire que peut-être qu'il n'y aura pas de dîner. Peut-être qu'il y aura des cocktails.
Oui, mais enfin ça relève. Alors, si vous voulez, est-ce qu'à un moment donné, privée, ça ne devient pas. C'est la sphère privée, c'est toute la difficulté très certainement dans les décisions qui sont prises entre ce qui se passe dans la sphère publique et dans la sphère privée.
Oui, mais ça sera des recommandations.
Oui,
pour un certain nombre de sujets.
On ne peut pas imposer, mais en revanche, il est important de donner des inspirations, des guidelines. Comment fêter différemment Noël cette année, le 1er janvier?
Mais il y a fêter Noël, il y a les retrouvailles familiales aussi, il y a des gens qui vont peut-être se retrouver seuls, etc. Il y a l'histoire des déplacements, enfin il va y avoir quand même beaucoup d'éléments qu'il va falloir prendre en compte. En 1er décembre, a priori, il va y avoir si la courbe, et si j'ai bien entendu le Premier ministre hier soir, il va y avoir quelques assouplissements, pas pour tout le monde, mais il va y en avoir quelques-uns. Le gouvernement marche sur une crête difficile, parce que ces fêtes de fin d'année, c'est un moment, on va dire, politique aussi très important. À passer.
Christine, Laurence. Moi, ce qui, enfin, dans ce message, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la forme du message, c'est-à-dire que la façon dont Monsieur Castex s'adresse à nous déjà est très infantilisante et puis quelque part un peu dégradante.
Il a le pire rôle dans l'histoire. C'est lui qui annonce les mauvaises nouvelles.
Tout à fait.
Je pense que personne n'a envie d'aller, quoi.
Voilà. On est bien d'accord, c'est peut-être pour ça justement qu'il y est envoyé. Mais on se rend bien compte qu'il y a un message qui est très émotionnel parce que évidemment on veut obliger les Français à avoir un certain type de comportement, mais qu'en même temps les comportements ne sont pas forcément très responsables partout, et notamment de la part de ceux qui devraient se protéger davantage. Je pense notamment aux personnes âgées qu'on croise très fréquemment sans port de masque et qui ne respectent pas toujours les mesures. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est la question du fond, c'est-à-dire qu'on se pose aujourd'hui la question de Noël, mais qui sera en encore en capacité de fêter Noël, parce que ce confinement pose quand même un certain nombre de questions, qui est notamment la question de la fermeture des commerces et d'un certain nombre d'entreprises qui sont sur le point de déposer le bilan et qui aujourd'hui n'ont pas de solution de secours. Parce que contrairement à ce qu'on nous dit, il va y avoir des aides. Il y a énormément d'entreprises qui passent à travers ces aides et qui n'en ont pas, et qui derrière vont se retrouver à déposer le bilan, et qui à Noël vont certainement aussi donner lieu à une vague de suicides, parce que c'est ce qui commence à arriver. Il commence à y avoir des suicides qui arrivent dans les urgences. Donc, il faut aussi se poser cette question-là. Des gens qui vont perdre leur outil de travail et qui sont de plus en plus nombreux, qui n'ont aucune ressource et qui n'ont pas non plus un accès à des indemnités chômage, puisque ce sont des chefs d'entreprise. Donc, il faut aussi que le gouvernement, à un moment, se pose la question de l'incidence économique qui est en train de se causer et d'être causée par ce confinement, avant de se poser la question de Noël. Parce que je pense que Noël, on a tous compris que si on devait se comporter de façon responsable, il n'était pas question d'aller voir nos personnes âgées et de leur transmettre un virus. Donc avant ça, je pense qu'il faut se poser aussi la question de l'économie, des petits commerces et des TPE-PME.
Allez, on continue avec vous quatre et vous, les auditeurs de Sud Radio, ce débat autour du confinement, du déconfinement, des fêtes de Noël, mais également du Conseil de défense. Ça va être la prochaine thématique que l'on va évoquer ensemble sur Sud Radio 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. On revient juste après ça. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi. Débat.
Et on continue avec vous ce débat avec nos débatteurs du jour, Laurence Taillade, Xavier Iacovelli, Mathieu Chaigne et Georges Kuzmanovic. Alors on était avec vous, Laurence, et on parlait notamment de la question des petits commerces et de la question économique autour de ce que va être Noël, finalement, Noël confiné, visiblement. Il y a eu Noël au balcon, mais là ça sera Noël à demi-confiné, visiblement. C'est sans doute ce qu'espère le gouvernement. Sur la question économique, là aussi, le gouvernement fait le choix de laisser les petits commerces non essentiels fermés et les restaurants également. Est-ce que la décision va être entendable, et surtout est-ce que effectivement il faut continuer à les laisser fermer pour permettre un redémarrage dans des conditions sanitaires acceptables?
Moi, je voudrais parler justement sur la question des restaurateurs, parce que moi c'est un métier que je connais,
Xavier.
Parce que c'était le mien.
Ouais.
C'était le mien avant d'être sénateur. Et donc, moi, je comprends la colère et je comprends l'extrême difficulté dans laquelle ils peuvent se trouver maintenant. Je vous invite à regarder l'étude, je suppose que vous l'avez lue, l'étude américaine qui a porté sur 98 millions de personnes qui ont démontré que les principaux clusters se trouvaient dans les restaurants, 4 fois plus d'ailleurs que dans les bars.
Ça, c'était avant toutes les mesures sanitaires, hein. C'était avant le début du port du masque, etc.
En l'occurrence, le port du masque, quand on mange, on ne le met pas.
Ça veut dire que le virus circulait beaucoup.
Oui, le virus. Donc, il y avait aussi les lieux de culte. Donc, si vous voulez, je pense sincèrement que ce n'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement ferme les restaurants, ferme les commerces dits non essentiels, même si j'aime pas ce terme, mais et notamment c'est pas de gaieté de cœur, parce que on a ouvert aussi des vannes des subventions, des aides, alors que effectivement ces commerçants ne veulent pas forcément d'aide, ils veulent pouvoir travailler. Mais aujourd'hui, je rappelle, et je suis pas d'accord avec Laurence Taillade, il y a aujourd'hui des aides. Peut-être qu'il y a des trous dans la raquette, et j'en suis le premier, j'ai déposé une proposition de loi sur la question des travailleurs indépendants, et notamment les extras de la restauration, qui aujourd'hui sont un trou dans la raquette. Mais il y a des aides qui peuvent, pour les entreprises qui sont fermées par décision administrative, les commerces, il y a des aides jusqu'à 10 000 euros. Là, le ministre de l'économie a annoncé hier que sur la question des loyers, qui est un vrai sujet, les commerces, c'est le plus gros problème pour les commerces, c'est surtout la question du loyer où ils ont des bailleurs.
Il va y avoir des exonérations pour les propriétaires.
Et il y a des exonérations qui passent de 30% à 50% pour le bailleur s'il renonce effectivement au montant du loyer. Je ne sais que c'est pas la panacée, je sais que c'est forcément pas ce que les gens attendent. Mais aujourd'hui, on voit quand même un gouvernement qui tente de soutenir un maximum le tissu économique pour éviter que nos centres-villes et centres-bourgs soient désertés à la fin de ce confinement.
Alors là, je m'adresse à vous aussi. Ça déborde, mais ça va être intéressant. Mais la question aussi qui en découle, c'est le sujet sur les décisions qui sont prises en Conseil de défense, qui est dénoncé par beaucoup, et notamment du côté de la France insoumise. Hein, on se souvient de effectivement la sortie de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale. Et Marc Fesneau ce matin sur Sud Radio, quand on lui demandait si le Conseil de défense était un manque de transparence, et il réfute effectivement ces accusations, et en disant que les faits démontrent que c'est faux. Là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas effectivement quelque chose à une réflexion à avoir dans l'acceptabilité des mesures, du fait que ce soit décidé de manière très verticale? Georges, qu'est-ce que vous en pensez?
Si, il y a un problème. Il y a un problème général dans la gestion de cette crise depuis le début par ce gouvernement, mais pas que ce gouvernement, la plupart des gouvernements européens, mais qui se ressemble beaucoup par la structure et la manière dont l'impuissance des États-nations en Europe est organisée.
Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire par rapport à ça?
Bien, je me permets de le faire, puisque nous avions proposé à République souveraine dès le 15 mars un plan qui n'était pas très compliqué, puisqu'on a regardé ce que faisait la Corée du Sud. Et je dis, heureusement que les Français ne regardent pas ce qui se passe au Japon, en Corée du Sud, ou à Singapour, en termes de nombre de morts et de fermeture d'activités économiques. Très peu de morts.
En termes de confinement aussi, je peux vous dire que c'est autre chose, les termes du confinement.
Après, la comparaison n'est pas raison, mais Georges, effectivement, leurs résultats sont différents, mais si on doit comparer ce qui est comparable, sur tous les plans, on risque effectivement d'avoir des surprises aussi. Leur mode de fonctionnement, du traçage des personnes, les personnes qui étaient contaminées, elles étaient tracées jusque chez elles.
Et justement, j'allais y venir. Je pense que non seulement, alors Monsieur Iacovelli, c'est pas que ce gouvernement que vous soutenez, je dis l'ensemble des gouvernements européens, n'ont pas les moyens d'action qu'ont des gouvernements qu'on peut comparer aux nôtres, que sont ceux de la Corée du Sud et du Japon, qui ne me semblent pas être des dictatures, avec énormément d'économies, de petits commerces, de gens qui se croisent tous les jours. Mais ils ont des moyens d'action qui sont effectivement très, très contraignants sur les individus qui sont malades. Et c'est eux qu'on confine, et pas l'ensemble d'un pays et la destruction d'une économie. Et là, je suis d'accord avec Madame Laurence Taillade et avec le grand chef Philippe Peste, qui s'était énervé hier soir sur France Info. Je suis d'accord avec lui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un tout petit peu rouvrir les vannes pour Noël. Ça ne va pas suffire et on va avoir une situation très révolutionnaire dans ce pays, parce que les commerçants vont s'effondrer globalement et on ne comprend pas.
Mais sur la question de ce Conseil de défense, est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose? Est-ce que le Parlement est squeezé et du coup ça rend les décisions difficilement acceptables?
Mais évidemment que ça les rend difficilement acceptables. Le Parlement ne devrait pas être squeezé. On n'est pas dans une situation de guerre.
Et le Parlement n'est pas squeezé.
Pandémie.
Permettez-moi de y répondre parce que j'y siège.
On va laisser Georges terminer.
Alors, si je peux me permettre, voilà, merci. Si je peux me permettre, le problème, c'est, imaginez que vous soyez un marchand de jouets aujourd'hui, au moment où vous faites votre chiffre d'affaires et que vous nous écoutez parler. Parmi les pubs que nous avons une pub de iCarrefour qui propose d'acheter des jouets avec une réduction de 10 euros. Eh bien, il peut se pendre, effectivement, comme dit Laurence Taillade, parce que c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que, alors c'est pas pour attaquer Carrefour, j'y vais aussi parfois faire mes courses, c'est que il y a des grandes enseignes qui ont des moyens de distribution en temps de Covid que n'ont pas des petits commerçants, donc ils ne tiendront pas le coup. Et on ne comprend pas, par exemple, sur cette question-là, comment ça n'a pas été plus discuté, parce que réellement, je ne vois pas pourquoi, quand on va chez un Nicolas acheter du vin ou dans un magasin de jouets, les professionnels, les commerçants, depuis des mois, mettent les masques, ont du gel hydroalcoolique, il n'y a pas 30 personnes qui sont dedans, on reste 13, on passe 15 minutes, il n'y a pas assez de temps pour se contaminer. On comprend bien que pour les restaurants, les cinémas, les théâtres, c'est un peu plus compliqué puisqu'on n'a pas de masque, en particulier dans les restaurants et les bars. Mais pourquoi avoir fermé tous les commerces? Et peut-être que plus de débats, plus de discussions, non seulement avec le Parlement, mais avec les Français, auraient permis d'éviter cette situation qui va être une catastrophe économique sévère.
Est-ce que c'est pas tout simplement ces petits commerces qui restent fermés pour continuer à éviter que les gens ne se baladent trop ou n'aillent trop, effectivement, dans les rues? C'est la question qu'on peut se poser. En tous les cas, c'est la réponse qui est apportée.
Mathieu. Mais au Japon, les gens se baladent.
C'est pas contre les petits commerçants.
C'est Xavier, là.
Au Japon, les gens.
Oui, au Japon.
Se fait? C'est ça qui est intéressant.
Est-ce que je rajoute une autre question. Est-ce que ce sont des pays et des populations qui ont, on va dire, la culture de la gestion sanitaire de ce genre de virus? contrairement à nous qui découvrons tout.
On est plutôt sur cette dynamique-là, c'est-à-dire comparer des Asiatiques et des Français, c'est assez compliqué dans les faits, puisque dans l'attitude et dans le comportement, il y a déjà des comportements dans les pays asiatiques qui sont très différents des nôtres, puisque ce sont des gens qui sont déjà beaucoup plus disciplinés que les Français. Mais quand on sort de cette question-là, dire que parce qu'on ferme les petits commerces, il y a moins de personnes qui vont se promener dans les villes, déjà la plupart des gens dans les rues portent le masque. On nous a dit pendant très longtemps qu'il ne fallait pas interdire les rassemblements à l'extérieur parce qu'à l'extérieur c'était moins dangereux qu'à l'intérieur, etc. Donc à un moment il va falloir accorder ses violons sur cette question de fond, parce qu'effectivement c'est dangereux dans les restaurants, mais dire que c'est dangereux dans d'autres endroits tels que des petits commerces qui effectivement, comme le dit Georges Kuzmanovitch, sont très vigilants sur les mesures barrières, sont à la limite beaucoup plus attentifs parce qu'ils ont une visibilité sur l'ensemble de leur magasin, qui n'est pas le cas dans certains centres, dans certains grands magasins où on voit que les gens ne portent pas toujours le masque. Donc ça, c'est un fait, c'est une réalité. Et en plus, on est en train de tuer un certain nombre d'industries. Je pense notamment à l'industrie du livre qui souffre énormément en ce moment. Et on peut dire que M. Castex est vraiment le meilleur promoteur de plateformes telles que Amazon. Et ça, c'est absolument scandaleux. La deuxième chose, si on doit parler de la question du Conseil de défense, c'est qu'on se rend compte que finalement, on a un conseiller des ministres qui a été exclu des décisions, ce qui a donné la problématique notamment des salles de spectacle, de la culture en règle générale, à laquelle plus personne n'a accès aujourd'hui, ce qui est quand même assez regrettable quand on voit notamment le niveau d'éducation de nos enfants. Ça serait quand même bien qu'ils puissent lire pendant leur temps libre. Et puis,
ils n'ont pas fermé les écoles, les collèges et les lycées.
Encore heureux, mais ça reste quand même une question de démocratie aussi, parce que la démocratie, elle représente sur la représentativité et donc sur le fait que les décisions soient prises par des représentants du peuple. Et moi, je veux bien entendre Xavier Iacobelli qui dit « on a été associé, seulement c'est le Conseil de défense qui prend les décisions, qui nous annonce le soir par le biais de M. Castex des décisions qui ont été prises, et je n'ai pas vu de consultation de l'Assemblée nationale et du Sénat. » Donc peut-être que M. Iacobelli va contredire, mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on le ressent. Et en l'occurrence, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les collectivités locales ne sont pas consultées, et on voit bien que celles qui ont le mieux géré la crise, ce sont justement les communes, les communautés de communes et les régions qui, sur la première période, ont mis en application des décisions. Oui, enfin, il y a toujours des exclusions.
Ouais. Laurence. Mathieu, on n'a pas entendu Mathieu sur ce sujet-là, notamment sur l'acceptabilité.
Oui. Je voudrais revenir sur plusieurs points. Le premier point, c'est le terme de climat insurrectionnel qui a été évoqué. Si je résume, en France, il y avait, jusqu'à il y a quelques années, il y avait ce qu'on appelait une dichotomie. Les Français, collectivement, avaient l'impression que le pays allait mal, mais que eux, individuellement, ils pouvaient s'en sortir. Et aujourd'hui, on ressent une bascule, c'est-à-dire que les Français, dans les enquêtes que nous menons, sont extrêmement négatifs sur l'avenir du pays, mais sont de plus en plus également négatifs sur leur avenir individuel. En d'autres termes, ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus aller bien dans un pays qui va mal. Et c'est un phénomène qui est totalement nouveau. Bien sûr, qu'est-ce qui nourrit ça? C'est l'extrême inquiétude des artisans, des indépendants, des commerçants. C'est aussi, et c'est nouveau, une inquiétude des cadres qui, de plus en plus, ont le sentiment qu'ils peuvent être touchés par le chômage. Et c'est bien sûr une menace qui pèse sur le pouvoir d'achat aujourd'hui. Lorsque l'on interroge chez BVA les Français, il y a 6 Français sur 10 qui sont extrêmement inquiets ou inquiets pour leur pouvoir d'achat aujourd'hui. Et donc tous ces éléments-là font que potentiellement, je n'irai pas jusqu'à aller sur un climat insurrectionnel, mais que le niveau d'inquiétude ressenti par les Français pour leur économie, pour leur avenir, n'a jamais été aussi élevé. Et que ce sont des ferments, effectivement, qui, électoralement, ou qui, dans la rue, peuvent à un moment donné se manifester.
Ouais.
Concernant la crise sanitaire, en revanche, je ne suis pas sûr que les Français reprochent le manque de concertation au gouvernement. Quand on regarde dans les détails les mesures, l'approbation au reconfinement, elle est approuvée de façon assez large par les Français, entre 2/3 et 3/4 des Français qui approuvent les mesures de reconfinement. Ce que les Français, en revanche, ont du mal à accepter, c'est le sentiment d'impréparation, c'est quelquefois le sentiment que le gouvernement ne sait pas où il va, ça peut être le cas sur la question du masque, ce sont les mensonges, par omission ou par manque d'anticipation, encore une fois, et qui, là, créent un climat anxiogène. Mais quand on interroge les Français, c'est pas le fait de savoir si le Parlement ou pas a été consulté qui est inquiétant pour eux. C'est pas le fait de savoir que le Conseil de défense ne respecte pas les prérogatives du Conseil des ministres et qu'il soit dans des avec des personnes qui sont moins nombreuses que lors du Conseil des ministres. Ce qu'ils veulent, ce sont des mesures qui fonctionnent. Et aujourd'hui, le doute des Français, il y a que 39% des Français qui croient que la crise sanitaire est bien gérée par le gouvernement. Le doute, c'est que les mesures ne soient pas adaptées et qu'elles n'aboutissent pas à une extinction complète de ce virus.
Allez, on va s'arrêter un court instant parce qu'on a un autre dossier à ouvrir dans un instant avec vous au 0826 300 300 également, qui continue finalement sur la lancée de cette gestion de la crise du coronavirus avec la sortie de ce documentaire Hold Up. Est-ce que c'est la porte ouverte au complotisme? Vous nous appelez 0826 300 300 et également sur les réseaux sociaux avec vous, chers débatteurs. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans un instant.
Sud Radio 10h midi, débat.
Allez, on est vendredi, c'est le débat qui continue jusqu'à midi avec nos débatteurs Georges Kuzmanovic, Mathieu Chaigne, Xavier Iacovelli et Laurence Taillade. On ouvre la page consacrée au coronavirus sous l'angle de ce film qui fait polémique aujourd'hui, les contre-vérités de Hold Up, un film de 2h, plus de 2h40, près de 3h, et qui cartonne sur Internet et qui prétend surtout dévoiler la face cachée de l'épidémie. On nous aurait tout caché et ce serait donc effectivement le résultat d'un énorme complot auprès des populations avec force, une réalisation très léchée et beaucoup de témoignages. Sauf que hier, le ministre, ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, qui témoignait dans ce film, eh bien, s'est complètement désolidarisé. On l'écoute, il était chez nos confrères d'RTL. Écoutez-le.
Je suis scandalisé par tout ce qu'il y a, ou presque tout. Ma réponse d'abord, c'est un, de ne pas en parler, deux, de me désolidariser totalement.
Et vous demandez à être retiré du film?
Oui, bien sûr, d'être retiré du film, mais au-delà de ça, ça pose quoi comme problème? C'est qu'il n'y a pas suffisamment d'explications des mesures qui sont prises.
Voilà, donc le commentaire, en tous les cas, la réaction de Philippe Douste-Blazy hier, qui était au départ dans ce film. Alors, les réactions sont très nombreuses. Un documentaire qui aujourd'hui nous dit Marc Fesneau ce matin sur notre antenne avec Patrick Roger et Cécile de Midibus, qui est en fait un tissu de complotisme et de mensonges. Ça ne tient pas la rampe 4 secondes. C'est un film nuisible à la démocratie et qui doit s'appuyer sur des faits. C'est du n'importe quoi absolu, a dit ce matin le ministre. Rappelons qu'il a été financé par une cagnotte en ligne. Il est officiellement sorti mercredi et il rassemble en fait surtout des personnalités sceptiques, d'experts qui sont venus effectivement, les rassuristes, hein, qui sont venus dire que la pandémie n'était pas aussi grave que ce qu'on voulait bien nous faire croire, et tout ça appuyé par le site de internet de François, qui, bon, n'a de François aujourd'hui ne plus qu'un lointain souvenir, mais toujours est-il qui fustige une idéologie sanitaire autoritaire et qui veut contraindre à une société de surveillance et de soumission. Vaste sujet, vaste débat. Si on voulait faire de la publicité à ce documentaire ou s'il en cherchait, en tous les cas, c'est réussi. C'est un énorme succès. Voilà, c'est gagné. Qui est-ce qui veut commencer sur cet objet non identifié de ce film qui fait polémique aujourd'hui? Qui veut commencer? Levez la main. Que je vous vois. Alors, on va commencer avec vous. Vous êtes tous quelque chose. Alors, on va commencer avec vous, Mathieu.
Oui, alors, moi, ce que je trouve intéressant dans ce film, alors, je ne l'ai pas encore vu, j'ai regardé le fact-checking de différents médias qui montrent les écarts entre ce que le film raconte et la vérité. Je pense que pour comprendre ce film, il faut comprendre quelque chose qui, moi, à titre personnel, me passionne et qu'on appelle les biais cognitifs. La vérité, c'est que ce film, il va confirmer dans leur certitude les gens qui pensent que le Covid n'existe pas, que le Covid a été monté en épingle, qu'il y a derrière le Covid un immense complot. C'est quoi le biais de confirmation? C'est très simple. Ça veut dire que naturellement, nous, les êtres humains, nous sommes attirés par les thèses, les arguments qui sont conformes à ce qu'on pense. Et donc, ce film « Hold Up », je pense qu'il ne va pas bouger d'un iota les gens qui pensent que le Covid existe, qu'il a fait beaucoup de morts et que le gouvernement gère comme il peut. En revanche, il va encore conforter les gens qui pensent que le Covid est un complot mondial parce que, eh ben, bien évidemment, comme dans toutes les fake news, il est bien foutu. Il est bien foutu, ce film, pour tous les complotistes. Il est bien foutu parce qu'il utilise plein de biais. Il utilise le millefeuille informationnel. Il y a plein d'informations qui vous tombent dessus, qu'on n'a pas le temps d'analyser, mais qui, du coup, donnent le sentiment que c'est sérieux. Il est bien foutu parce que, eh ben, il crée ce qu'on appelle l'illusion des séries. C'est un immense biais cognitif. Pour les individus, il n'y a pas de hasard. S'il se passe quelque chose, ça veut dire qu'il y a une main invisible. Et une main invisible, quand dans quelque chose comme le virus, c'est hyper rassurant. Parce que ça veut dire que ce virus, forcément, si on élimine derrière les causes du virus, Bill Gates, qu'on élimine 2-3 personnes comme ça, on va en finir avec ce virus. Et donc, en réalité, Hold Up, ça décrit quoi de façon extrêmement bien? Ça décrit que nous sommes des êtres totalement empreints de biais. On a plein de biais qui font qu'on va être enclin à croire une histoire qui nous rassure.
Donc on nous caresse en fait dans le sens de nos certitudes. C'est un peu ça effectivement ce que vous dites, Mathieu. On continue à Laurence. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Écoutez, je vais continuer dans la lignée effectivement de ce que dit Mathieu, parce que je pense que ce qui a laissé la porte ouverte justement à ce type de reportage, c'est le fait qu'on a eu quand même plusieurs mois de cafouillage sur le traitement du Covid, sur un manque de transparence, sur des mensonges qui se sont répétés, sur des incohérences de décisions qui ont prises.
Pardonnez-moi Laurence, est-ce que oui, ces incohérences et ces informations qui partaient un peu dans tous les sens, est-ce que c'est le seul fait des politiques, où il y avait aussi une guéguerre médicale et d'experts médicaux et de professeurs sur les plateaux qui ont ajouté à cette polémique?
Mais évidemment, en fait, c'est cette incohérence dans les messages qui ont été diffusés de toutes sortes qui fait qu'à un moment, on laisse la place et on crée un terreau pour pouvoir véhiculer ce type de complot. Si on avait eu dès le début une vraie transparence dans les messages, si on avait eu une cohérence dans les prises de décision, peut-être que ça ne laisserait pas suffisamment la place au doute et justement à la création de ce type de messages. Sauf que on voit bien que pendant des mois, ça a cafouillé. Et le résultat, c'est que ce cafouillage a laissé la porte ouverte à tout ça.
Georges ?
Il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Mathieu Chêne, c'est que effectivement, c'est bien fait, c'est léché, mais c'est extrêmement incohérent, en fait. Il y a des séquences qui se suivent de 5-6 minutes qui ne sont pas des arguments cohérents. Et moi, je suis extrêmement inquiet que la patrie de la pensée cartésienne de Pasteur... que ce genre de film puisse toucher certaines personnes. C'est comme les
Ah oui, vous dites que c'est inquiétant qu'il y ait des gens qui, effectivement, s'identifient, en tous les cas, rejoignent ce... C'est ça qui vous inquiète?
Oui, ça m'inquiète considérablement. Ça m'inquiète considérablement concrètement sur les vaccins, parce qu'on va avoir un débat incroyable quand les vaccins vont arriver, parce que derrière ça, il y a des gens qui sont également anti-vax. C'est la même logique qui repose sur rien. Moi, j'étais à une époque humanitaire, j'avais tous ces gens-là à voyager dans des pays où il n'y a pas de vaccins ou pas assez de vaccins, et voir qu'est-ce que c'est qu'une population qui souffre, je sais pas, de la poliomyélite, par exemple, au lieu de...
Covid.
Oui, ou du Covid, non, mais bien sûr, mais non, la poliomyélite, c'est abominable physiquement. Mais bien sûr, alors, c'est complètement délirant, il y a des contre-vérités loufoques, et même, je me demande si ce n'est pas attaquable par le gouvernement, parce qu'il est... On y fait croire que nos anciens, nos seigneurs, ont été tués par le Revitrol et que ça a été voulu par le gouvernement. Donc là, on est carrément dans le... au-delà du complotisme. Là, je crois que ça peut aller au pénal. Bon, je sais pas ce que fera le gouvernement.
C'est des accusations totalement infondées, oui, tout à fait.
C'est notamment infondé, mais... Et puis, mais
c'est des diffamations.
La plupart des assertions sont fausses et elles ne reposent pas sur... Par exemple, il y a une séquence où une dame montre des papiers, les agite et dit « Regardez, l'ONU, quand il parlait du masque, a fait, il y a 8 mois, un truc de 5 pages, puis 16, puis 8 pages, puis 32 pages. Et qu'est-ce qui justifie un changement de nombre de pages sur un sujet scientifique, et sans dire qu'est-ce qui est écrit dedans? Je ne sais pas, ils ont fait des dessins. Ça n'a aucune cohérence, ce documentaire.
Oui, ça va conforter. Mais comment expliquer que, effectivement, derrière ça, on va dire ces contre-vérités n'arrivent pas à être entendues? C'est ce que disait Mathieu Chêne, c'est-à-dire que finalement, ça vient conforter des gens qui, de toute façon, sont même plus à convaincre.
D'une certaine manière, oui. Enfin, je suis pas convaincu que ça ne touchera pas certaines personnes, parce que on rentre dans une période d'effondrement économique. Laurence Taillade en a parlé tout à l'heure, de dépressions qui vont s'aggraver, en particulier avec les périodes de Noël. Des gens vont perdre leur travail, des gens vont perdre leur commerce. Et quand les choses ne vont pas bien, les explications sont toujours les bienvenues.
Exactement. Et je rebondis pour ce que dit Georges. Les explications sont les bienvenues. Okay. Et au fait, de trouver une cause à la tête du problème du Covid, une élite ou alors Bill Gates ou alors l'industrie pharmaceutique, d'un certain côté, c'est hyper rassurant parce que ça veut dire qu'il y a une explication à cette terrible pandémie qui en réalité n'est que probablement que le fruit du hasard ou qui a été mal géré par les hommes, plus par incompétence. Et les hommes, c'est nous, les hommes et les femmes, c'est le gouvernement, c'est nous collectivement. Mais de se dire que nous sommes responsables collectivement et qu'on n'a pas réussi à gérer, c'est trop dur à porter. Et donc, la stratégie du bouc émissaire, elle est hyper rassurante pour nous tous, hein, parce que tout à coup, ça tendrait à dire que s'il y a un problème, c'est que c'est une minorité. Exactement. Et si on condamne ce fautif, eh ben on va retrouver une vie normale.
On va retrouver.
Mais par contre, il y a une petite chose.
Georges et puis Xavier.
Parce que voilà, ouais. Laurence Taillade a quand même raison en disant que le capouillage du gouvernement sur les masques ont posé problème. Mais plus profondément, les dérives de la Big Pharma, je pense par exemple au scandale de Mediator, aussi nourrissent les thèses complotistes. Je pense qu'après cette crise, il faudra impérativement qu'on récupère la souveraineté sur la production de médicaments et sur la santé.
Ouais.
C'est pas un domaine qui peut dépendre des lois du marché parce que ça induit évidemment d'un manque de confiance. Et quand on voit le patron de Pfizer qui le lendemain
qui revend, revend ses actions,
bénéfices, qu'est-ce que vous voulez ? Ça ne peut que nourrir ce genre de choses. Donc il faut l'interdire. Point. La santé, ça dépend du public, donc de l'État, donc des citoyens.
Allez, Xavier, pour terminer avec vous sur ce sujet.
Oui, moi je vais pas être long parce que je pense qu'en utilisant ce sujet, on fait vraiment de la pub pour ce documentaire qui est à mon sens dangereux. Et je ne suis pas forcément d'accord avec Mathieu sur le fait que ça ne fera pas boucher les lignes. Moi, je pense justement que c'est très dangereux aujourd'hui pour notre démocratie. On a des gens, et Georges le disait, Laurence aussi, des gens qui sont faibles, qui sont affaiblis par cette crise, économiquement, psychologiquement également. Et donc, effectivement, le fait d'avoir un bouc émissaire est toujours plus facile que de se dire effectivement que c'est une pandémie mondiale que nous subissons, c'est toujours plus facile de se dire qu'elle a été à l'origine de quelqu'un. Moi, je vous avoue, au premier confinement, je lisais sur les réseaux sociaux de gens que je connais, des gens qui ont un métier, qui ont la tête bien remplie, on va dire. Je lisais quand même que le gouvernement organisait le génocide de sa population. On utilise des mots sur les réseaux sociaux qui sont catastrophiques. Et moi, je trouve que ce genre de documentaire est très grave pour notre démocratie et ça ne fait qu'alimenter les complotistes. Et moi, je suis très choqué, puisque un des professeurs qui est interviewé à l'intérieur, c'est un professeur de ma circonscription, de Garches, donc dans les Hauts-de-Seine. Je trouve effectivement que c'est très grave aujourd'hui que des spécialistes, des experts, des médecins puissent prêter leur nom, leur science, leur compétence à ce genre de documentaires qui sont à mon sens très graves. Et donc je refuse dès maintenant de parler de ça sur les autres émissions.
Allez, merci à tous les quatre, Laurence Taillade, Xavier Iacovelli, Mathieu Chêne, Georges Kuzmanovic. Très bon week-end à vous quatre. Ce débat est maintenant terminé. Moi, j'ai une pensée aujourd'hui émue pour toutes les victimes de ce 13 novembre 2015. On n'a pas pu évoquer le sujet, on n'en a pas eu le temps, mais bien évidemment, on y reviendra tout au long de cette journée dans les différentes émissions et tout à l'heure dans Les Vraies Voix à partir de 17h sur Sud Radio. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec André Bercoff juste après les infos et je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.